Bienvenue, vous entrez dans La Zone, le podcast qui part à la rencontre de femmes créatives et inspirantes. Une semaine sur deux, une artiste, une entrepreneuse, une actrice de changement se raconte. On parle de son parcours, de ce qui l'anime, de sa zone de génie. On parle de son rapport à elle-même, au monde et aux autres. Aujourd'hui, à mon micro, Maïssa.
Parce que nous, on parle là tout de suite de combat, de guérir, d'avancer. Mais avant ça, faut se regarder. Eh, c'est le plus dur. Le plus dur, finalement, c'est pas forcément d'aller au front. Hein. C'est de se dire, j'ai besoin d'aller au front. Je dois aller au front. Je dois me regarder tel que je suis. Je dois accepter mes failles. Je dois accepter les failles de ce qu'on a transmis en moi. Je dois accepter ma vulnérabilité. Je dois accepter mes peurs. Je dois accepter ce que je suis aujourd'hui et que je n'aime pas.
J'ai enregistré cet épisode un vendredi matin, très tôt. Tout le monde dormait encore dans la maison, à part mon chat, bien sûr. Je l'ai observé longtemps, mener sa vie paisible, alors que mon cœur, lui, battait à mille à l'heure. J'ai toujours un peu le trac avant chaque enregistrement. Mais ce matin-là, je me suis réveillée avec beaucoup de questions sur cette vie d'adulte que je me suis construite. Une vie confortable, certes, et heureuse à beaucoup d'égards, mais une vie aussi construite sur des blessures mal guéries, sur des incertitudes que j'ai refusé de voir, sur des mots que je n'ai pas encore la force de confronter. Je me suis réveillée éprise d'une certaine nostalgie pour l'Emmanuel d'il y a 10 ans, insouciante et pleine de projets, et d'une culpabilité à l'égard de celle de bientôt 30 ans, qui n'a pas tout à fait honoré ses rêves de jeune fille, qui les a ignorés même, et qui a apposé un voile sur son cœur, se persuadant que ce qu'elle a construit, c'est exactement ce qu'elle voulait. J'appréhendais donc cet échange avec Maïssa, car je savais qu'elle me mettrait face à moi-même. Et le plus dur, c'est toujours de se voir, non ? Je veux dire, de se voir réellement, pardonner son passé, panser ses plaies avec patience et indulgence. C'est ce qu'a fait Maïssa, justement, se regarder dans le miroir, se pardonner sa latence à ne pas choisir ses rêves, et puis faire un premier pas, et un second, vers la vie qu'elle voulait vraiment mener. Elle m'a parlé de liberté et d'indépendance, de combat et de résilience. Elle m'a parlé du regard, celui que les autres posent sur nous et celui que l'on pose sur soi-même. On a parlé, enfin, de figure maternelle, celle qu'elle souhaite être pour ses filles et celle qu'elle a eue lorsqu'elle était elle-même petite fille. Cette mère qui a alimenté des blessures, forgé son identité, une mère qu'elle accepte et aime malgré tout. Et en fait, je me rends compte que l'amour a traversé toute notre conversation. L'amour pour l'autre, l'amour de soi. Parce qu'au final, lorsqu'on parle de guérison, on en revient toujours à ça. Il faut d'abord s'aimer pour guérir un peu. Et il faut guérir un peu pour créer un peu plus librement. Et se réaliser pleinement. Si vous aimez notre conversation, abonnez-vous au podcast, laissez une note et un avis sur Apple ou Spotify. La Zone, c'est aussi une newsletter mensuelle dans laquelle je partage mes réflexions de femmes ordinaires et créatives sous la forme d'un journal intime adressé directement à vous. Si vous aimez les histoires et l'introspection, que vous vous posez mille et une questions sur la création, je vous invite à vous y inscrire, le lien est en description. Allez, place à l'épisode. Bienvenue Maïssa, je suis vraiment ravie de passer un moment avec toi. Bienvenue dans La Zone.
Merci Emmanuel, merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là.
Maïssa, tu es thérapeute holistique depuis 2008 et tu le dis bien sur ton site internet que holistique, c'est pas juste un terme fancy. Ça veut simplement dire que tes techniques de thérapie vont s'adapter aux besoins et aux vécus des personnes que tu accompagnes. Donc, tu accompagnes des femmes, parfois perdues, parfois en souffrance, parfois les deux. des femmes qui se sentent bloquées, qui ont l'impression de passer à côté de leur vie ou qui se sentent submergées par leurs émotions, par des relations ou des situations particulières. Tu as aussi un podcast, Les Messages Privés, par Maïssa Leroy, dans lequel tu partages tes conseils et tout ce que tu as appris au cours de ton parcours, où tu as étudié notamment la psychologie, les neurosciences, les communications interpersonnelles, pour ne nommer que cela. Alors, on entame un nouveau cycle dans cette deuxième saison de La Zone, c'est le cycle de la guérison, du care, du soin de soi, par l'introspection. Et c'est notamment pour ça que je voulais m'entretenir avec toi. Mais avant ça, je voulais revenir sur quelque chose que tu as fait récemment et que je rêve moi-même de faire un jour. Tu as justement posé un geste pour prendre soin de toi. Tu as pris un billet d'avion pour Oman la veille pour le lendemain et tu es partie. Sans ton mari, sans tes 4 filles, tu as tout laissé et tu es juste partie. Alors pourquoi ce voyage? Pourquoi cette spontanéité? Pourquoi Oman et qu'est-ce que ça t'a inspiré?
Donc pour moi, Oman, c'était une destination que je rêvais de faire depuis 10 ans ou un peu plus. C'était pas du tout coté comme maintenant. C'est vraiment, je suis une grande, grande fan de reportages. Je regarde vraiment énormément de reportages. C'est vraiment mon moment. Et en fait, j'ai toujours, dès que je vois un reportage sur Oman, je le regarde. Donc, c'est comme si que je connaissais déjà ce pays sans même y aller. Et ça a été un rêve. Et en fait, ça s'est fait, pourquoi du jour au lendemain? Parce que je sentais que j'avais besoin de me reconnecter à quelque chose et j'arrivais pas à le comprendre forcément. Et en fait, une fois que je suis partie, j'ai bien compris. Parce que j'ai toujours été une globe-trotteuse. Et puis ensuite, j'ai eu mes enfants. Et du coup, j'ai mis ça un petit peu entre parenthèses. Et en mettant ça entre parenthèses, j'ai éteint une partie de moi qui, à un moment donné, a eu besoin de s'exprimer, de s'extérioriser. Heureusement que toute ma famille est magnifique et personne ne m'a mis la moindre contrariété par rapport à ça ou la moindre contrainte, si tu veux, que ça soit émotionnel ou même physique. Dès que je l'ai annoncé, tout le monde était content pour moi. Quand j'en ai parlé avec mon mari, il m'a dit, quand j'ai commencé à énumérer les mille et une raisons qui pouvaient me pousser à rester ici et à justement étouffer un petit peu ce truc-là, il m'a dit, mais non, mais vas-y, c'est bon, te prends même pas la tête. C'est ton moment, vas-y, quoi, te prends pas la tête. Genre, vas-y, si tu sens que tu as besoin de partir, pars. Et il faut savoir que jusqu'à la veille, quoi, je savais pas que j'allais partir à Oman.
Ton mari, d'ailleurs, je comptais pas aborder la question, mais en fait, la relation que tu as avec ton mari m'inspire beaucoup. Parce que tu parles de lui avec vraiment beaucoup de bienveillance, tu sais, pas que tu le mets sur un piédestal, mais je veux dire, tu éprouves beaucoup de gratitude et de reconnaissance envers
lui. Ouais, de gratitude, c'est ça. Parce que, en fait, c'est vraiment c'est mon partenaire, en fait. Il n'y a pas de relation, genre, dessus, en dessous, tu vois. C'est vraiment, on est ensemble. On est une équipe. Par exemple, même lui, il a besoin de main. Il sait qu'il peut partir. Il n'y a pas, j'y vais jamais regarder du coin de l'œil ou faire, en fait, nous, on est là l'un pour le bien de l'autre. Voilà. C'est vraiment la ligne éditoriale de notre couple, c'est-à-dire qu'on comprend qu'on a besoin l'un pour l'autre, mais chacun a besoin aussi de son espace. C'est-à-dire que pour nous, c'est hyper important de respecter, en fait, le besoin de chacun, même si c'est des besoins qui sont différents de l'un et de l'autre. Quand on vit pas, on vit vraiment chacun de son côté, mais ensemble en même temps. Enfin, je sais pas comment exprimer, mais voilà, t'as compris l'idée. Genre, on est là l'un pour l'autre. Voilà, c'est vraiment ça.
Est-ce que c'est porté peut-être par un sentiment de liberté que t'as pas toujours eu? Est-ce que c'est une valeur maîtresse chez toi?
C'est une valeur maîtresse chez moi, la liberté. C'est hyper important. Je suis libre dans ma tête, je suis libre dans mon corps, je suis libre de plein de choses. Et parfois, la vie fait que t'as des contraintes factuelles, tu vois, qui font que tu peux pas faire forcément tout ce que tu veux quand tu le veux. Mais dès que j'en ai l'opportunité, je sais que j'essaye de la saisir au maximum pour pouvoir nourrir cette part de mon identité qui est hyper importante.
Je me demande aussi si elle n'a pas autant d'importance du fait de l'environnement familial dans lequel tu as grandi. Dans un justement épisode de podcast, tu parles de ta mère qui est algéro-turque. Donc tu as grandi dans une famille monoparentale avec ta mère qui a vraiment osé aller à l'encontre de tous les codes sociaux qu'on imposait aux femmes à l'époque. C'était une femme musulmane, divorcée, artiste peintre, elle rentrait vraiment dans aucune case à part la case « je fais ce que je veux et je choisis d'être libre ». Donc j'imagine que ça t'a forgé toi et je me demandais si, de quelle manière ça avait influencé ton propre parcours à la fois personnel mais aussi relationnel.
Alors d'un côté ça a influencé parce que voilà j'ai vu une mère hors du commun. Parce que c'est une réalité, c'était vraiment une mère hors du commun et jusqu'à maintenant, c'est une mère hors du commun. Et en même temps, bah, il y avait beaucoup de blessures quand même parce que c'était famille monoparentale. Donc, elle ne laissait pas finalement, elle aussi, exprimer tous ses aspects forcés, enfin, artistiques et compagnie parce qu'elle elle a vraiment développé en fin de carrière. Elle travaillait enfin, à la municipalité, dans les écoles et tout, mais... Elle laissait sa créativité, elle a commencé à émerger vraiment quand elle savait que c'était la fin et que qu'elle allait bientôt prendre la retraite. Elle a toujours peint, toujours fait des choses comme ça, on l'a toujours vue artiste à la maison. Mais là, c'était vraiment tout son temps. Mais elle a bridé ça tout au long de sa vie. D'une certaine... Puis elle a toujours fait des trucs rien à voir. Quoi. Ma mère, dans les années 86-87, c'est moi qui lui faisais réviser ses cours de taxi. Ça, j'en ai jamais parlé, mais elle voulait passer le concours pour être taxi. Genre vraiment des trucs, tu l'attends jamais, elle est là-bas. Elle a toujours été entrepreneuse, mais comme elle était toute seule, c'est compliqué. Enfin voilà, elle a toujours fait des trucs, on ne s'attend pas. Et c'est il n'y a pas très longtemps hein, que j'ai pris ce recul-là. Hein, en disant, mais en fait, ma mère, c'est vraiment une badass, en fait. Mais quand on vit avec toute sa vie, qu'on se prend la tête à l'adolescence et tout, on ne se rend pas vraiment compte. Mais après, je me suis vraiment rendu compte que chez nous, mais même ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, il y a vraiment quelque chose d'ancré, en fait, chez les femmes, où il y a quelque chose quand même d'assez indépendant. Il y a quelque chose d'assez indépendant. Et du coup, bah, ça, ouais, ça a été transmis en mode tu dois être libre, en fait. Elle l'a montré par l'exemple, même si elle ne l'a pas été. Elle ne l'a pas été factuellement, puisqu'elle était obligée, tu vois, de travailler pour payer le loyer, quoi, tout simplement. Mais elle nous a montré de par ses idéaux et sa posture, en fait, que la liberté, tu peux l'avoir, tu l'es, en fait, tu l'incarnes.
Quel lien tu fais, en fait, entre ton métier de thérapeute et cette valeur-là de liberté ?
Ben justement, c'est de montrer aux femmes que c'est possible d'être libre de toutes ces injonctions qu'on va leur imposer et quelle que soit la posture qu'elles ont envie de prendre, quel que soit le tournant de leur vie. Moi enfin, l'essentiel pour moi, c'est des choix éclairés pour elles. Tu vois, c'est ça mon objectif. C'est vraiment mène la vie que tu as envie de mener et celle que tu as envie de mener. Et pas celle qu'on t'impose ou qu'on t'a dit que tu devais vivre, en fait. Et quels que soient les choix, genre vraiment, l'essentiel, c'est d'être heureux dans son propre choix. Et de par mon travail, bah, c'était d'aider les familles. Tu vois, parce que pour moi, une femme, elle a une place prépondérante. On n'a pas encore assez mis d'équilibre dans les foyers pour que ça ne soit pas la femme qui prépondère au niveau de l'éducation, qu'on le veuille ou non, en fait. C'est une réalité, c'est un fait. Aujourd'hui, c'est comme ça. On se bat pour que les choses changent. Mais aujourd'hui, c'est un fait. Donc, il faut s'adapter à ça. Donc, on est obligé de... Moi j'ai toujours dit, genre, une mère heureuse dans un foyer, c'est un foyer qui est heureux. Et hélas, c'est beaucoup de responsabilités. Hein. Ça, c'est horrible, en réalité. Mais c'est comme ça, aujourd'hui. Et donc, tu peux pas être, si tu veux, une femme malheureuse en étant une mère heureuse. C'est pas possible. Tu vois, il faut que la source même de ce que tu es soit alignée, soit heureuse, soit bien. Pour être bien, il faut faire ce qui t'anime, ce que tu aimes et surtout savoir qui tu es pour savoir ce que tu aimes.
Mmh. Est-ce que tu es passée par ce processus-là toi-même dans ton parcours personnel ? Et la raison pour laquelle je te demande ça, c'est parce que Inès, coach en Ikigai, qui est passée dans la zone, tu es passée aussi dans son podcast et... elle m'avait dit, et c'est quelque chose que je redis souvent à mes invités parce que ça m'a marqué, que pour trouver sa mission de vie, il faut vraiment revenir à la source de ce qui a été douloureux pour soi ou vraiment identifier quelque chose qui nous dérange et qui va être un moteur qui va nous inspirer à trouver une solution à cette chose-là en fait, qui nous dérange pour ensuite la partager au monde. Par exemple, elle était vraiment en quête profonde de sens. Et elle voulait savoir comment faire pour trouver ben, sa voie, sa mission de vie. Et elle l'a alliée au fait d'aimer profondément analyser les gens et organiser des choses, ce qui l'a menée à son métier de coach, profiler en Ikigai. Et je me demandais si, avec le recul, tu penses que tu as eu même processus pour trouver ta vocation à toi de thérapeute.
Complètement. En fait, ça passe par la douleur. Tu passes forcément par la douleur, mais tu as deux choix. Soit tu fais le choix de la nier et de ne pas le regarder, soit tu prends ton courage et tu décides de regarder ce qui ne va pas, quels sont tes mauvais schémas, qu'est-ce qui fait que tu es mal, pourquoi tu es malheureuse alors que tout va bien ou tout va mal parce que tu as finalement poussé à ce que tout aille mal. Et en fait, tu te rends compte que waouh, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, il faut oser regarder sa douleur pour pouvoir justement en faire une alliée. Parce qu'en réalité, une douleur, c'est une alliée. C'est un message, tu vois. Sauf que bah, c'est comme la naissance, elle se passe dans la douleur. Mais sans douleur, on pourrait pas donner naissance. Je parle naturel. Hein. Mais il y a vraiment, tu vois, quelque chose de paradoxal, mais en même temps de complètement équilibré.
Et comment ça s'est passé chez toi exactement?
Alors moi, j'ai eu une adolescence un peu compliquée. Après, j'ai beaucoup culpabilisé. Ensuite, j'ai fait les mauvaises rencontres. Après, je me suis mariée pour les mauvaises raisons. Tu vois, le cycle infernal, quoi. Il n'y a rien qui va. T'es sûr qu'il n'y a rien qui va. Et puis de là, bah, tu continues à avancer dans ta vie. Donc, tu te mens. Après, tu as des enfants. Après, il y a des vraies conséquences. Mais au fond de toi, tu vois que tu n'es pas bien. Moi, par exemple, avant de reprendre mes études, chaque rentrée scolaire, j'étais dans une profonde déprime parce que je voulais retourner à l'école.
Chaque rentrée scolaire de tes filles.
Ouais, mes filles, des gens qui m'entourent, j'étais vraiment la boule au ventre, le cœur serré, et pas parce que mes enfants allaient à l'école, hein, parce que moi, je suis pas du tout ce genre de mère. Genre, je m'en fous vraiment, tu vois. Genre, allez, hop, salut, hein, allez-y, c'est pas mon problème. Mais tu vois, genre, j'avais cette petite voix interne jusqu'à ce qu'à un moment donné, bah, tu vois, ça va pas, quoi. Tu vois que tu vas pas bien. Tu sens que tu vas pas bien. Toutes les fois où tu vas te connecter à certaines émotions, les émotions sont complètement disproportionnées. Alors moi, c'était pas vraiment la tristesse. J'ai jamais été mélancolique comme personne, mais plutôt enragée, tu vois. Donc, je vais m'être en colère. Je vais être en colère contre tout. Je vais m'énerver contre tout.
La frustration.
La frustration, tu vois, qui s'exprime de cette façon-là. Et toi, tu es en mode, non, en fait. Tu sais, à un moment donné, je me dis, attends, qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants? Qu'est-ce que je suis en train de leur montrer comme exemple? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Là, je suis en train de faire un carnage, là. OK, moi, j'ai pas envie d'assumer les choses et j'ai envie de me détruire. OK, ça m'appartient. Mais là, t'es pas en train de te détruire que toi, là. T'es en train de détruire les autres, les enfants. Quel exemple t'es en train de montrer, tu vois, et c'est un petit peu la claque, le réveil. Puis après, tu dis, eh oh, c'est bon, vas-y, maintenant, je vais aller trifouiller tout ça, on va aller voir ça. Puis c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Hein.
Et quel âge avaient tes enfants à l'époque?
Elles étaient petites, elles étaient très petites. Je crois que mon aînée, elle devait avoir, 4 ans, même pas, hein, parce que ça allait pas dans mon couple. Donc, chaque fois, je voulais divorcer, chaque année, je voulais divorcer. Tu vois, genre, il y avait quand même des signaux qui faisaient que j'étais pas bien dans ma vie, que c'était pas. Il y avait, c'était bancal, en fait. Il y avait plein de choses de bancal. Et du coup, mes filles étaient petites quand j'ai commencé l'introspection.
Je suis consciente et je pense qu'il y a pas mal aussi de personnes là qui nous écoutent, qui sont conscientes du fait qu'il faut écouter ses émotions, qu'il ne faut pas se voiler la face, qu'il ne faut pas les nier, puis qu'il faut les confronter. Mais moi, ce qui personnellement me bloque encore un peu, c'est d'ensuite faire, tout simplement.
Bah, tu sais, comme on dit, justement, on parle de zone, mais tu sais, le plus dur pour un être humain, hein, c'est pas de rester dans la zone de l'inconfort, c'est de sortir, en fait, d'aller vers l'inconnu. Tu vois, mieux vaut rester dans une zone qui, ça va, on se démerde dedans, tu vois, ça va, tant bien que mal, on arrive à avancer, mais on reste dedans, tu vois, qu'un terrain inconnu où tu te dis, waouh, mais vers quoi est-ce que je vais?
Exactement. Donc, je me demande comment toi, est-ce que tu t'es dit, alors que tu avais 3 filles en bas âge, que tu étais, bon, tu vois, dans un mariage bancal, mais je suppose que tu devais aussi te rassurer en te disant, bah, tu sais, ça va, c'est pas si mal, puis il a telle ou telle.
Qui est toujours pire. Les autres sont toujours pires.
Exactement.
Tu vas commencer à regarder.
La pire.
Ça va pas. Donc, ouais. Bon, ça va. Le mec est sympa. C'est un bon père de famille. Tu vois, genre, bon, ça va. Il n'y a pas de violence. Ça se passe relativement bien. Tu vois, genre, t'es en mode. Puis c'est encore pire quand t'es dans cette posture-là. Parce que quelque part, t'as pas la permission et la légitimité de le faire de l'extérieur. Donc, le jour où tu le fais, tout le monde te dit qu'est-ce que tu fous, quoi.
Est-ce que tu saurais expliquer ce qui t'a donné l'élan pour bouger, en fait, pour tout simplement non seulement confronter tes douleurs, mais ensuite te dire, OK, c'est bon, genre, il faut que ça change et que tu fasses l'action, en fait, qui va mener à des changements. Donc, par exemple, quitter ton ex-mari, reprendre tes études, etc. Et ensuite, comment réagit ton entourage et comment est-ce que toi, tu fais pour te départir de peut-être une certaine culpabilité aussi.
Bah en fait, c'est quand j'ai compris que je commençais à être une mère pas top. Tu vois, je me suis dit, attends, stop. Et puis, il s'est passé quelque chose, c'est qu'à un moment donné, j'ai été hospitalisée, j'ai failli y passer. Tu vois, il y a quand même des signes. Hein. Il t'arrive des choses dans la vie qui font qu'à un moment donné, tu te dis, wow, 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 je vais arrêter de faire semblant. Là, il se passe des choses graves. Si je fais pas ce que j'ai à faire, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et donc, à un moment donné, tu décides de sortir, en fait, de ça. Mais il faut savoir que j'avais commencé ma psychologie, les études de psychologie avant de divorcer. Donc ça aussi, je pense qu'il y a aussi un tournant, tu vois, qui se passe à ce niveau-là. C'est qu'à un moment donné, tu peux pas apprendre certaines choses et comprendre certaines choses de toi-même et ne pas agir en conséquence. Tu vois, le cordonnier mal chaussé, c'est pas possible en fait quand tu t'intéresses à la psychologie humaine et que tu commences à sentir que tu vas vers cette voie-là, il faut absolument que tu guérisses en fait, tout simplement. Faut que tu oses aussi changer certaines choses de ta vie et avancer. Donc je pense qu'il y a eu, en fait, c'est un ensemble de choses. C'est comme si qu'à un moment donné, l'observation fait qu'à un moment donné, tu ne peux plus te mentir. Tu ne peux plus te dire non, ça va. Non, je vais pas agir. Allez, c'est bon. Tu vois, t'es obligé à un moment donné. T'es obligé parce que ça y est, tu vois que ça va plus.
Ouais, t'as attendu la corde et t'es au bout en fait.
Ouais, ça y est, t'es en mode bon, vas-y, c'est bon. Ça y est, stop. Tu vois, et tu mets le stop et bizarrement, le moment du stop, quand t'es de toi à toi-même, hein, bien sûr, il te fait du bien. Tu fais du bien, mais après, il y a l'entourage.
Oui, exactement. Donc, c'était ma prochaine question. Comment l'entourage réagit? Parce que j'imagine que si, tu vois, il n'y avait pas de violence, que voilà, ce n'est pas un pervers narcissique. Mais voilà, tu sais, si c'est quelqu'un de bien sous tout rapport.
Ah oui, complètement. C'était quelqu'un de très, très bien. C'est toujours quelqu'un de très, très bien. C'est juste qu'on n'était pas compatibles. Hein. C'est un super père de famille. C'est un mec génial. Enfin, tu vois, c'est juste qu'il y a un problème de compatibilité. Bah, c'était difficile. Très difficile. Mais quand je me suis dit, je vais l'annoncer, je me suis dit, je suis partie avec cette posture-là. Je suis pas là pour vous demander votre avis. Je suis juste là pour vous informer. Voilà. C'est celui qui me suit, OK. Celui qui me soutient, OK. Celui qui veut pas me suivre, que pas, je coupe les ponts. J'ai pas besoin de bouler là. Là, je vais rentrer dans une phase dans ma vie où je vais avoir besoin de force, de ressources et d'avancer sérieusement. Si là, je m'amuse à me taper des boulets qui vont constamment me réfréner et me dire « mais t'as pensé aux enfants, mais franchement, mais attention, mais nanana ben, », la première, ma mère. Hein. Pourtant, elle est passée par là. Mais la première des personnes, c'est ma mère qui est venue et qui m'a dit « oh, mais non, tu devais… » Eh, je lui dis « écoute, maman, on va arrêter là la discussion. Soit t'es de mon côté, t'es ma fille, quoi, t'es ma mère, quoi qu'il arrive. » Et à ce moment-là, bah voilà, à la vie, à la mort, quel que soit mon choix, t'es là pour me soutenir, c'est ton rôle, point final. Soit tu décides de commencer à mettre des bâtons dans les roues, et moi, tu me connais, si tu mets des bâtons dans les roues, c'est bon, je vais prendre mes distances, en fait. Faut que je me protège, j'ai des filles, j'ai des choses à faire, à régler, à gérer. J'ai besoin de soutien, en fait. J'ai pas besoin qu'on donne des avis. Et puis, bizarrement, tu sais, quand tu commences à divorcer, il y a des gens dont t'avais pas de nouvelles depuis des années qui t'appellent, qui veulent faire les médiateurs... j'ai dû envoyer bouler des gens. Mais en fait, ça va parce que ma mère, elle a mis quand même cette force en moi de je dis les choses et je m'en fous et on n'est pas là pour vivre pour le regard des gens. Donc tu vois, mine de rien, même ma mère, je lui ai dit, écoute, si tu deviens un obstacle dans mon avancée, je te mets de côté, en fait. C'est pas un problème pour moi. J'ai vraiment pas voulu la validation des gens. C'est-à-dire que s'ils avaient été proches de moi, tant mieux. Et c'est ce qui s'est passé. Et ceux qui se sont, qui ont voulu faire mettre un espèce d'avis comme ça non demandé, ah bah je les ai next hein, direct. Hein, j'avais pas le temps là. Là c'était survie, mes enfants et moi. Pas le temps pour tout ça, tu vois.
En fait, t'as toujours été comme ça. C'est une qualité que j'admire beaucoup chez toi, le fait de t'en foutre complètement de ce que vont penser les autres et du regard des gens, ce qui n'est pas du tout mon cas. Je travaille encore là-dessus. Et justement, en fait, avec Inès, encore une fois, dans son podcast, tu disais que pour pouvoir se détacher du regard des gens, ce qui est d'ailleurs nécessaire dans le processus créatif, quand on est une personne qui crée, il faut savoir se détacher du regard des gens, c'est crucial. Eh bien, pour ce faire, il faut se détacher de son propre regard. Et quand tu as dit ça, ça m'a fait un
électrochoc.
Ouais, ça m'a beaucoup parlé parce qu'effectivement, je ne me laisse jamais tranquille. Et donc, je me demandais comment on fait pour se défaire de son propre regard, donc c'est-à-dire se laisser tranquille, se foutre la paix, mais en ayant un équilibre justement entre ça et le fait de se remettre sainement en question pour ne pas devenir
un éco-connard. Un tyran, tu sais.
Exactement.
Bah en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a important de faire, c'est de se laisser tranquille quand on passe par des épreuves et de s'observer quand on est dans un moment d'accalmie. En fait, on fait toujours l'inverse, si tu regardes bien. Le mécanisme, c'est quand je suis dans un moment où il faut que je produise quelque chose et tout, bah, comme par hasard, c'est à ce moment-là que je me rends compte que je suis nulle, que je suis procrastinée, que nan, que si, que ça. Et donc, je m'autoflagelle alors que c'est pas le moment de m'autoflageller. Il n'y a pas le temps pour ça, tu vois. Faut vraiment garder à l'esprit cet aspect de est-ce que c'est productif pour moi aujourd'hui de me remettre en question alors que j'ai tout un truc à passer, en fait, tout un moment à construire, à réfléchir et comme tu disais par rapport à la créativité, c'est exactement la même chose, tu vois, à créer. Est-ce que j'ai le temps de me remettre en question maintenant? Est-ce que c'est judicieux et est-ce que c'est intéressant? En revanche, je sais que moi, à chaque fois que je termine quelque chose ou que je sais pas, ou c'est un petit moment d'accalmie dans ma vie, je suis perpétuellement en remise en question. Mais c'est perpétuel, c'est-à-dire que tu vois, j'inverse. Je suis tout le temps en train de m'observer, de regarder, mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? Tout ça, tout ça. Et ça me permet vraiment, en fait, de poser les choses et de me dire, OK, bon, il y a ça qui va pas, mais ça regarde les choses. Et puis, je suis bien entourée aussi, hein. Et puis, je fais beaucoup de thérapie aussi, hein. C'est-à-dire que moi-même, je suis thérapie. Donc, tu vois, je prends quand même du temps parce que j'ai peur pour mes patientes, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour ma famille. Donc, je fais attention à ça. Je suis très vigilante par rapport à ça. Mais au-delà de ça, tu vois, c'est important de se foutre la paix. Vraiment, c'est important dans les moments où tu sais que tu vas attaquer quelque chose. Tu vois, faut être un peu dans un état pas secondaire, mais tu sais, en mode, c'est pas le moment, en fait, tout simplement. C'est pas le moment. Il y a d'autres moments pour ça. C'est pas dans les moments où t'es déjà toi-même pressurisé, dans le speed, pas bien. C'est pas le moment de se rajouter, en fait. Là, tu fais pas de toi un allié, tu fais de toi un ennemi.
Est-ce que c'est relié à une blessure émotionnelle, psychologique particulière, le fait de donner autant d'importance au regard des autres?
Bien sûr. Ça vient de l'enfance, ça vient du parent qui t'a pas donné la légitimité d'être un individu. Et du coup, t'as toujours constamment besoin de sa validation et de sa permission, en fait. Et du coup, cette permission-là que t'as demandé dans l'enfance ou qu'on t'a imposé pendant l'enfance, bah, tu vas la chercher constamment chez la maîtresse, après chez l'employeur, après chez le monde qui t'entoure, après chez les gens qui vont te voir, après sur les réseaux sociaux, après, tu vois. Et après, c'est l'engrenage parce que tu t'es pas donné en tant qu'enfant à toi-même aujourd'hui en tant qu'adulte, cette validation et cette permission. C'est souvent ce que je travaille en thérapie avec mes patients, tu vois, c'est souvent ce truc qu'on va aller chercher chez l'enfant, on va lui dire, OK, t'as le droit en fait, toi aujourd'hui en tant qu'adulte, tu peux lui donner ce que ton parent lui a pas donné. Et peu importe les raisons pour lesquelles il les a pas donné, ça lui appartient, tu vois, mais t'as le droit, t'as la permission, fais-le. Mais encore faut-il qu'elle se donne la permission.
Bah c'est ça. Mais je comprends maintenant pourquoi toi justement, t'as pas ce problème-là, étant donné que ta mère t'a donné beaucoup de... T'as transmis du moins une certaine indépendance et...
En fait, elle m'a pas donné cette permission-là parce que si tu veux, ma mère, ça a été une mère toxique, hein, comme beaucoup de parents racisés, tu vois, j'ai envie de dire. Parce qu'ils en avaient rien à foutre de notre épanouissement, tu vois. Ils étaient plus sur un truc, bah, il faut donner à manger, donner un toit, c'est bon. Et puis, on n'est pas là pour penser à votre épanouissement. Je pense que cette légitimité, Elle me l'a donné par des signes d'affection, etc. Ça, c'est clair que j'en ai vraiment pas manqué, tu vois. Mais aussi, je pense que c'est dû à mon observation, parce que je suis quelqu'un de très, très observatrice. Et je sais que ma mère, elle m'a transmis ça, comme je te disais, par sa façon d'être, pas dans les cases, mais en même temps, elle souffrait du regard des gens. Tu vois, ça veut dire que le regard des gens était important pour elle. Et c'est plus à partir de cette blessure où je me suis dit, mais attends, mais à quelle heure? Je vais jamais donner l'heure aux gens. Je vais jamais donner l'importance aux gens, tu vois. Parce que je vois que c'est destructeur, parce que ma mère, tu vois, j'ai été une enfant parentifiée, j'ai été une enfant qui a eu sa mère qui pleurait dans ses bras, qui a été blessée, tu vois, qui a été fragilisée. Et donc, moi, j'ai compris très jeune que, OK, donc le regard des gens est destructeur. Même si elle vivait sa vie, enfin, tu vois, le paradoxe, il est là. C'est-à-dire que d'un côté, elle vivait tout ce qu'elle avait envie de vivre. Mais d'un autre côté, tu vois, à huis clos, bah, elle souffrait de pas être validée par le monde, par la société, par sa famille. En tant que petite fille, je sais que quand je voyais ma mère souffrir, et c'est de par cette souffrance-là que je me suis dit, OK, bah, je vais couper à ce niveau-là, puisque ça, c'est un frein, en fait. Et c'est plus une prise de conscience que une transmission qui m'a été faite. C'est une transmission malgré moi, tu vois, dans la douleur. C'est pas une transmission, voilà, ma fille, tu dois être tout ça. Parce que ma mère, elle voulait que je sois dans les cases, hein, bizarrement. Ça, c'est bizarre, hein, mais ma mère, elle voulait que je sois dans les cases, que je reste mariée, elle comprend jamais rien à mon travail, tu vois, genre les trucs, tu dis, mais arrête, meuf, s'il te plaît, à d'autres, tu vois. Il y a quand même ces injonctions de la société, mais en même temps, j'en ai tellement rien à cirer qu'elle en est fière, tu vois.
Ouais, c'est assez. C'est pour ça que l'humain est complexe et tout en contradiction.
Hein. Exactement.
Mais en même temps, j'imagine qu'elle projetait sa peur du regard des autres sur toi.
Complètement. Ah, mais bien évidemment, bien évidemment. Et ça, tu le comprends, tu vois. Et c'est. Ouais, c'est. Je suis contente d'avoir eu ces observations et ce cheminement, parce que tout ce cheminement, c'est pas quelques années, tu vois. On parle de décennies où j'ai réfléchi, je me suis posée allongée sur un milliard de divans, tu vois, pour comprendre et parler aussi détachée de ça et en faire même une force. C'est même pas un détachement, c'est quelque chose de très fort. Mais voilà, ça a pas été transmis, tu vois. J'ai pas été privilégiée à ce niveau-là. Ça a été fait dans la douleur, tu vois. C'est pas inné. Tout se construit, hein. Tout se construit, tu peux grandir sans aucune validation et réussir à comprendre qu'il n'y a que toi qui te valide. La validation que tu cherches dans le regard des autres, c'est celle que tu attends de toi-même en vérité. Hein. Tu veux juste un effet miroir des autres. Hein.
De quelle blessure alors toi tu dirais que tu as guéri pour te trouver et pour être épanouie?
La trahison, l'abandon, ouais, hein, c'est les deux blessure principale que je porte et que j'ai portée. Ouais, c'est ça, c'est le syndrome du sauveur aussi. J'ai beaucoup, bah, mon métier, tu vois, avoir, voilà, maman solo, t'as envie de la guérir, t'as envie de lui faire plaisir, t'as envie d'être une super fille pour elle, t'as envie de lui apporter tout ce que tu n'as pas à lui apporter, parce que c'est pas ce qu'elle recherche non plus, tu vois. Et voilà, c'est vraiment, je dirais principalement, moi, c'est trahison, abandon.
J'aimerais bien parler du lien entre tout ce dont on vient de parler et la créativité. Et je me demandais d'abord si tu te considérais comme une personne créative, si c'est quelque chose qui t'avait déjà parlé ou que tu avais déjà eu à l'esprit.
Alors oui, pour moi, je suis quelqu'un de créative, mais pas artistiquement parlé, tu vois. Ça veut dire que je vais constamment créer des choses, faire des liens entre les choses. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, pour moi, ma créativité, je vais la définir dans une manière de m'habiller particulière. Je vais la définir, je sais pas, dans les idées que je vais avoir ou dans la création de certaines choses, mais pas forcément artistique, tu vois. Parce qu'on m'a toujours dit, tu sais pas dessiner et tout. Ça, c'est une autre blessure que je devrais travailler d'ailleurs. On m'a jamais donné cette légitimité, tu vois. Mes dessins, c'était toujours les plus moches à l'école. Donc, Mais je suis OK avec ça, tu vois, j'ai pas de problème avec ça, mais pour moi c'est dans ma manière d'être une mère, je vais être très très créative, je vais toujours déconner quand je vais jouer. Par exemple, tu vois, je sais que toujours à la maison on me dit maman, t'aurais pu faire du stand-up et tout parce que je suis une grosse tailleuse. Genre vraiment, faut voir les punchlines que je te balance à chaque minute et en fait, tu vois, ça pour moi c'est de la créativité. Tu vois, toutes ces choses-là, j'aime beaucoup écrire aussi, j'aime créer toujours des nouvelles choses. Tu vois, je suis toujours sur de nouvelles idées qui vont me nourrir, qui vont me porter. Mais tu vois, ça va être plus une créativité en lien avec ma mission de vie, par exemple. C'est pas forcément de la créativité artistique, comme je te disais, mais je suis très, très créative, ouais.
Mmh. Oh, mais de toute façon, justement, à chaque fois, on pense que la créativité, c'est être une artiste, alors que pas du tout. C'est quelque chose que c'est une compétence, en fait, qu'on a toutes et tous en soi.
Qui se manifestent de manière différente.
Exactement. Et donc, je me demandais si tu avais eu des retours de tes patientes qui, après avoir été exposées à leurs blessures, à tout ce qui ne va pas dans leur vie grâce à toi, est-ce qu'elles se sont lancées dans un projet? Est-ce que ça a débloqué des choses chez elles?
Oui, bien sûr.
Pour qu'elles fassent... Ouais, pour qu'elles fassent preuve pour qu'elles débloquent en fait leur créativité.
Oui, beaucoup. J'ai pas envie de dire quasiment toutes parce que ça sera se la raconter, tu vois. Mais celles qui vont jusqu'au bout des choses et au bout des process et qui sont assidues et qui font bien le taf. Parce que tu vois, souvent quand on va voir un thérapeute, on croit qu'on va lui déposer son truc et qu'il n'y a pas de travail derrière. Alors moi, je leur dis directement, en fait, c'est pas moi le résultat, c'est toi. C'est ta vie et c'est toi qui es actrice de tout ça. Moi, quand tu raccroches avec moi, je suis plus là et t'es face à toi-même. Donc celles qui sont vraiment assidues et qui sont vraiment présentes et qui ont envie de s'en sortir, etc. Ah oui, 100%, ouais, reprennent complètement leur vie en main. C'est dingue. Genre, je reçois très souvent des messages d'elles, d'ailleurs, hein, même plusieurs. Hier, j'ai reçu un message de mes patientes qui m'a dit ça y est, je suis enfin doctorante en ça. J'étais trop contente. Voilà, et j'en ai plein, en fait. Et c'est super. Je suis très contente parce que ça veut dire, OK, mission accomplie.
Mais c'est quoi le rapport, alors, entre le fait de guérir? Ou alors d'affronter ses blessures psychologiques et émotionnelles et enfin se lancer dans un projet, étant donné que toi, tu leur exposes des choix et qu'il y a toujours ce, comme on a dit au départ, ce pas à faire en avant et que parfois, on sait, on a toutes les cartes en main, mais on décide quand même de juste pas jouer.
Ouais, c'est la peur et c'est surtout, tu vois, c'est une histoire d'estime, quoi. C'est une histoire de... Il y a aussi un autre schéma qui est hyper important à soulever, c'est est-ce que j'ai le droit, est-ce que je mérite la réussite? Tu sais, il y a des gens, ils sont dans des schémas, je ne mérite pas la réussite, tout simplement. Et c'est leur schéma et c'est ce qu'ils doivent combattre pour pouvoir avancer. Mais avant tous ces combats-là, Emmanuel, avant tous ces combats-là, il y a la première chose, c'est se regarder. Parce que nous, on parle là tout de suite de combat, de guérir, d'avancer, mais avant ça, il faut se regarder. C'est le plus dur. Le plus dur, finalement, c'est pas forcément d'aller au front. Hein. C'est de se dire, j'ai besoin d'aller au front. Je dois aller au front. Je dois me regarder tel que je suis. Je dois accepter mes failles. Je dois accepter les failles de ce qu'on a transmis en moi. Je dois accepter ma vulnérabilité. Je dois accepter mes peurs. Je dois accepter ce que je suis aujourd'hui et que je n'aime pas. Je dois accepter tout ça. C'est un travail d'acceptation qui est difficile pour un humain, en plus de toutes les responsabilités qu'il a et tout ce dont on parlait au début, tu vois, tous ces trucs qui lui empêchent cette espèce de mobilité, tu vois, tout ce truc qui l'assoit en fait dans sa réalité actuelle et tu sais, qui l'empêche de bouger en fait, qui le fait se nécroser malgré lui.
J'aimerais faire un petit lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, qui peut-être pourrait être mal interprété. Quand tu as dit que les parents racisés étaient tous toxiques.
Majorité. C'est pour pas dire Parce que bon, sinon, déjà, quand je dis 90%, je me fais manger, mais.
Ah On ne veut pas faire d'amalgame, désolé. Mais j'imagine que c'est parce qu'ils n'ont juste pas le temps de se regarder.
Ouais, non, mais de toute façon, ça, je le dis dans ma vidéo, tu sais, dans ma vidéo des parents toxiques, je le dis, en fait, les pauvres, on n'est pas là pour les pointer du doigt, hein, attention, hein, ce qu'ils ont fait, c'est ouf, et peut-être que nous, on serait pas capable demain de faire ça. C'est-à-dire que c'est dingue. Et à leur place, aujourd'hui, on a un privilège quand même d'arriver, de se poser des questions sur qui on est, qui on veut être, qu'est-ce qui va nous épanouir, comment est-ce que je vais bien me sentir, tu vois. Eux, c'était en mode, attends, les mecs, si on arrive à dormir sous un toit et à manger correctement et à s'éduquer un minimum, bah c'est très bien en fait. Et au contraire, franchement, je les remercie tous parce que finalement, aujourd'hui, c'est grâce à eux qu'on en est là et qu'on a ce privilège, encore une fois, de pouvoir se poser ces questions-là et aspirer à un mode de vie extraordinaire et privilégié, tu vois. Mais en même temps, nous, on a une responsabilité, c'est de ne pas reproduire ce schéma-là. Donc, ne pas reproduire ce schéma-là, c'est se libérer du schéma qu'on a avant. Et s'en libérer, c'est aussi de regarder les choses telles qu'elles étaient. Ça ne veut pas dire qu'on va les fustiger, leur dire « ouais, vous avez fait de la merde ». Ce n'est pas l'objectif, pas du tout. Mais c'est de reconnaître d'où on part. Enfin, on va se mentir, hein, tu vois. Tu ne vas pas soigner une carie si tu as le bras cassé. Tu vois, genre à un moment donné, il faut être rationnel, logique, factuel, tu vois. Et moi, c'est ça que j'ai envie de mettre en lumière. Ce n'est pas de jeter l'opprobre sur eux, tu vois, et de dire… c'est de votre faute, vous avez fait de la merde et voilà. Non, mais c'est juste de dire, bon, les mecs, on sort d'un endroit, il faut en avoir conscience. Maintenant, pour pouvoir avancer, il faut que vous ayez conscience que vous devez vous débarrasser de ces espèces de carcans et d'injonctions que vous portez malgré vous. Ça, c'est ça le côté prendre conscience qu'on a un parent toxique. Mais c'est OK, tu vois, c'est pas grave. Hein. Moi, ma mère, elle a été toxique et je la kiffe à la vie, à la mort. Hein. C'est pas un souci, tu vois, genre, c'est pas grave. Et peut-être mais même que moi, avec une certaine manière, oui, et peut-être que moi-même, d'une certaine manière, je suis toxique pour mes enfants, malgré tout le bagage et tous les efforts que je fais et toute la vigilance que j'ai par rapport à mes enfants. Mais il est possible que moi aussi, je sois une mère toxique. Et c'est OK, en fait. Le pire, c'est de pas le regarder et de faire genre tout va bien. Parce que t'as plus de vigilance, tu fais plus attention et ta vie, elle t'appartient plus. Alors que quand tu regardes les choses et que tu les regardes bah, avec clairvoyance, bah, c'est OK, tu vois. Genre c'est moins une douleur, en fait. C'est moins douloureux parce que tu expliques les choses. Alors que quand tu es là, dans l'émotionnel, ah, non, j'ai pas le droit de dire ça, la culpabilité, mais en même temps que c'est le cas, bah, tu n'es pas sincère avec toi-même. Donc, à partir du moment où tu n'es pas sincère avec toi-même, tu ne peux pas travailler sur toi. Ça, c'est le béaba, tu vois.
Qu'est-ce que tu dis à des femmes qui pensent que ce qu'elles se disent à elles-mêmes, elles ne peuvent pas faire confiance à leur propre intuition et à leur propre pensée. Tu sais, par exemple, elles se disent, je sais pas, elles sont dans une situation où elles se disent, OK, peut-être c'est mon mari, par exemple, il est bien sous tout rapport, mais on n'est pas compatible. Puis elle se dit tous les jours, on n'est pas compatible. Puis chaque année, elle veut divorcer, mais elle ne le fait pas parce qu'elle ne fait pas justement confiance à ce qu'elle se dit dans sa tête.
Ben, en fait, je leur dirais, en fait, ce que je dis souvent d'ailleurs, c'est que ça dépend si elles ont des enfants ou pas. Si elles ont des enfants, je leur dis, tu sais, c'est pas que toi que tu sacrifies. Tu sacrifies quelque chose de générationnel. Tu es en train de montrer un exemple générationnel. C'est-à-dire que toi, tu es en train de montrer et d'accepter que tu ne mérites pas la vie que tu mérites. Donc du coup, quelque part, tu es en train de transmettre ça d'une manière inconsciente. Hein. Tu peux avoir tous les discours de la terre, mais si toi, tu montres que tu es dans le sacrifice, tes enfants vont être dans ce sacrifice-là. Donc, tu ne vas pas leur permettre d'être des adultes forts et épanouis. Parce qu'ils vont voir, ils vont avoir, pour exemple, bah, une mère qui, le béaba, ne l'a pas fait, quoi. Tu vois? Genre, le béaba, même si ça paraît être une montagne, et on valorise beaucoup plus le côté sacrifice dans la fatalité. Tu vois, en mode, je me sacrifie au nom de la famille, mais après, derrière, tu vas leur faire payer. Il faut arrêter de mentir. C'est une réalité. Quand tu es mère de famille et que tu décides de rester dans ton couple pour tes enfants, bah à un moment donné, tu vas faire un retour sur investissement. Tu dis, j'ai sacrifié ma vie, j'espère que mes gosses, ils vont sacrifier la leur pour moi. C'est normal, c'est humain. Genre, c'est OK, il n'y a rien de mauvais là-dedans, tu vois. C'est humain, ce sont des mécanismes normaux. Et quand une femme, elle n'a pas d'enfants, je lui dis, mais aujourd'hui, ça, je ne sais pas, ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans que tu es mariée, que tu es en couple, est-ce que tu te vois les 40 prochaines années de ta vie, dans quel état tu seras? Réfléchis, dans quel état tu seras? Si aujourd'hui, chaque jour, tu te répètes que tu es malheureuse dans ce couple, dans 40 ans, tu vas finir comment, en fait? Je dis, tu as 40 ans, tu as 50 ans encore pour construire ta vie, tu as même plus. Je sais pas, vois au loin, en fait. Te dis pas, oh là là, j'ai déjà donné 5-10 ans de ma vie. C'est rien, 5-10 ans. C'est rien. En fait, faut, tu vois, il faut un peu... Moi, j'aime bien factualiser les choses, même si ce sont des choses émotionnelles, parce que en vérité, bah, l'émotion appelle l'émotion et du coup, tu rentres dans un engrenage où, où tu n'arrives pas à te sortir, tu vois. Et quand tu factualises les choses, tu les cérébralises, tu arrives et tu dis, bon, ok, meuf, aujourd'hui, tu as passé 5 ans de ta vie dans un mariage calamiteux. Mais si je te dis demain, tu peux passer 40 ans de ta vie dans un mariage de bonheur, tu vas choisir quoi? Faut juste passer l'étape, avoir le courage. Mais pas, pas seulement pour le mariage, hein. C'est comme ça dans tout, hein, dans tout, hein.
Ouais, genre, que ce soit une carrière professionnelle, ça fait 10 ans que tu fais
quelque chose. Mais même de toi à toi-même, en fait, hein, de toi à toi-même, si tu vas pas bien et qu'à un moment donné, tu sens que tu vas pas bien et que t'es devenu ta pire ennemie pour toi, enfin, de toi à toi-même, bah, tu vois, il faut à un moment donné te dire, OK, bon, je crois que cette personne, je vais vivre avec toute ma vie. Tu vois, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose pour que bah, ça se passe bien pour nous, quoi. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est important de régler ces traumas.
Est-ce que tu vois déjà dans le comportement de tes filles des choses positives que tu leur as transmises, des choses pour lesquelles toi, tu as dû, entre guillemets, te battre et, tu vois, confronter justement tes blessures? Et tu le vois aujourd'hui que ça porte ses fruits dans les comportements de tes filles.
Ouais, complètement. D'ailleurs, je le subis. Hein. Enfin, je leur dis, hein, ah là là, si vous aviez une autre mère, vous n'auriez pas ouvert votre bouche comme ça. Hein. Vous n'auriez pas été libre comme ça dans votre tête. Hein. Non, mais c'est... oui, je le vois. Mais après, elles ont... Tu vois, genre, je le vois... tu vois, au quotidien, mais elles ont aussi leur propre peur, leur propre blessure, mais je vois qu'elles sont très solides. Je vois que la base, elle est solide, tu vois. Que les interrogations qu'elles se posent, ou même que les décisions qu'elles ont envie de prendre, ou même leur comportement, c'est juste un comportement d'ado, quoi. Tu vois. C'est pas genre, elles sont en mode, je m'inquiète pas pour elles, je m'inquiète vraiment pas pour leur avenir, genre, vraiment pas. Meuf solide. Mais un petit peu peur, matriarche, tu vois. Genre. Maison de meuf, tu vois, je ressolide. Non, non, si, je vois l'effort.
T'es un vrai squad, hein. Si on peut faire une petite parenthèse là-dessus, c'est génial. J'aurais trop aimé. Nous, j'ai une petite sœur, donc on est que deux, mais j'ai grandi avec que des filles autour de moi parce que j'ai que des cousines, en fait, du côté de ma mère, puis c'est celles qui vivent en France, donc on est genre 8.
Ouais. Ah ouais, ouais, c'est délire.
Ah ouais. Ouais, mais du coup, enfin, j'ai jamais, à part mon père, enfin, j'avais pas vraiment d'autres figures, tu vois, masculines et tout. Et donc moi, ça a été assez compliqué de comprendre en fait, enfin, comment un homme ça fonctionne et tout, comment ça réfléchit, tu vois. Et parfois c'est, je vois en fait le retour du bâton, tu vois. J'ai été élevée en sororité. Ça m'a quand même nui à certains égards, tu vois.
D'accord. À quel niveau ?
Dans le sens où tu grandis vraiment avec un seul point de vue, mais en fait un point de vue féminin, puis du coup, bah, pas un seul point de vue sur tout, mais par rapport à l'homme, ce que représente un homme, ce qu'il doit t'apporter aussi, ce que toi tu dois faire, entre guillemets, ou être pour pouvoir correspondre à ce que lui veut, à ce que lui il aime, etc. Le fait d'idéaliser aussi une relation de couple en mode Disney, etc. Et je vois en fait les répercussions de ça, que ça me nuit aujourd'hui parce que y a plein de choses que je voulais ou que j'idéalisais. En fait, c'est pas du tout. Tu te rends compte que c'est pas du tout.
Ah oui. Non, mais c'est ce qui. Ouais, je comprends complètement. Et nous, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas le problème qui va se poser parce que finalement, elles grandissent avec un modèle de couple qui est quand même hyper dans la communication et tout. Et ce que j'essaye de faire pour pallier à ça, c'est de les construire de façon vraiment solide. Tu vois, en mode, il y a des choses que il y a des concessions que tu vas faire. C'est normal, en fait, tu vois. Et nous, si on arrive là, c'est parce qu'on a fait certaines concessions. C'est même pas des concessions sacrifices, c'est vraiment un équilibre qu'on a essayé de trouver et tout. Et j'essaye de leur expliquer, en gros, vous pouvez pas venir vous imposer dans un couple ou idéaliser certaines choses. Vous devez, c'est un travail, en fait. Ça vient pas comme ça. Il y a pas que l'amour, en fait. C'est tout un truc, c'est tout un travail, etc. Mais elles sont plus dans un mood, tu vois, par exemple, bizarrement, elles sont plus dans un mood de, j'ai besoin de me construire moi en tant qu'individu avant de penser à tout ça, en fait. Elles sont vraiment dans ce mood-là, tu vois, genre j'ai besoin de me construire, j'ai besoin de savoir qui je suis pour ensuite, parce que je leur ai tellement ressassé aussi, les pauvres. Franchement, j'ai fait de la lobotomisation, tu vois. Les filles, vous devez savoir qui vous êtes avant d'aller, vous devez savoir qui vous êtes avant de quoi que ce soit, pour pas se perdre, mais elles vont sûrement passer par des relations chaotiques et c'est OK, tu vois. C'est, faut aussi faire son expérience pour savoir ce qu'on veut plus, hein. C'est important, hein, tu vois. Mais bon, on verra. Ça reste quand même la première génération, tu vois, qui grandit avec une espèce d'affirmation de je suis comme ça, c'est comme ça que, enfin, tu dois t'affirmer et t'accepter et t'aimer en tant qu'individu. Je sais pas ce que ça donne de l'autre côté, hein. Côté masculin, je sais pas ce qu'il en est, tu vois. Est-ce qu'il y a un retard de croissance là-bas? Comment ça se passe, tu vois? Parce que c'est quand même un peu effrayant, mais on verra.
Il y a quand même des hommes qui font ce travail-là. Après, c'est sûr que c'est pas la majorité, mais j'en ai vu, tu vois.
Les consciences sont de plus en plus éveillées, mais après, on peut pas leur en vouloir de pas faire le travail, parce que c'est difficile pour un homme de renoncer à certains privilèges, tu sais. C'est comme si que nous, demain, on arrivait, on nous disait « renonce à certains privilèges », bah tu vas dire non, qui sont établis, tu vois, ancestralement, limite. Tu peux pas arriver en quelques générations et dire « c'est bon, les mecs, à partir du maintenant, vous donnez ce que vous avez, vous partagez ce que vous avez », tu vois, on verra.
Est-ce que tu as une recommandation de livre pour moi?
Alors oui, « Changer l'eau des fleurs », j'ai oublié le nom de l'auteur.
Ah oui, j'en ai entendu parler.
Voilà. Je l'ai lu cet été, je l'ai dévoré. Je l'ai trouvé très beau, captivant, genre... vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'aime pas les livres de développement personnel et tout, parce que... de psychologie et tout, parce que bon, c'est bon, je veux pas lire et travailler en même temps, tu vois. Donc, moi, j'aime beaucoup les romans, j'aime beaucoup m'évader et tout. Évidemment, il y a aussi Yasmina Khadra, que je trouve magnifique. L'outrage fait à Sarah, j'avais beaucoup aimé, même si elle m'avait un petit peu énervée. Ouais, bah parce que moi, quand je lis les livres, je les vis. Hein, tu vois, c'est pas je les lis seulement, c'est oh là là, je mets des jours à m'en remettre et tout, laisse tomber. Donc, voilà, je dirais Changer l'eau des fleurs, c'est cool. Et c'est un joli livre, en fait. Il est très émotionnel.
C'est quoi l'histoire?
C'est l'histoire d'une gardienne de cimetière. Et donc, t'es entre la vie et la mort. Et t'es aussi sur la vie après la mort, tu vois. Et c'est quand même intéressant de voir son observation face aux gens qui sont face au deuil. Et puis, il y a son histoire personnelle aussi. Donc, c'est franchement, j'en parle, j'ai la chair de poule parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, tu vois. C'était, tu passes du rire aux larmes. Enfin, voilà, c'est un roman vivant, tu vois. Pourtant, ça se passe dans un cimetière, mais c'est un roman très vivant.
Mais généralement, c'est souvent lorsque des livres abordent la mort qui sont le plus vivants.
Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà pour le livre. Et sinon, en ce moment, je suis en train de lire L'amour, c'est surcoté de Mourad Winter et je me tape des barres, mais c'est un petit peu cru, donc je préfère avertir. Au cas où, tu vois.
Ouais, les gens iront se renseigner.
Voilà. Je préfère prévenir.
De quoi seras-tu nostalgique d'ici quelques années?
Je pense, j'ai envie de te dire, de ma vie de famille, de ma vie, de mon rôle de mère, de mon rôle central de mère. Ouais, je pense, parce que ça y est, elles sont en train de grandir, elles sont en train de faire leurs propres choix. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, je vais plus être, de laisser un petit peu la lumière sur elles et d'accepter voilà, le rôle de l'ombre, en fait. T'es plus la mère de famille, la matriarche. Mais tu vas laisser le rôle à tout le monde. Je pense que je serais nostalgique de ça.
Le podcast s'appelle La Zone, en référence à la sortie de sa zone de confort et à l'entrée dans sa zone de génie. Alors toi, Maïssa, qu'est-ce que tu as laissé dans ta zone de confort et qu'as-tu trouvé dans ta zone de génie?
J'ai laissé le repos dans ma zone de confort. J'y ai laissé le repos, en fait. Ouais, en fait, quand je dis repos, c'est le repos dans le combat, quoi. Tu combats rien. Ouais, la flemme, en fait, si t'y es, enfin, ouais, j'ai le confort, en fait, le confort de ne mener aucun combat. Ouais, je pense que c'est ce que j'ai laissé dans ma zone de confort.
La résignation, tu dirais.
Ouais, 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 c'est ça, tu vois, le côté, ouais, le fatalisme, c'est vraiment ça. Genre, c'est même pas de l'acceptation, c'est vraiment du fatalisme. Genre, je prends les choses et c'est ok, c'est comme ça, et puis je m'en fous. Et ce que j'ai trouvé dans la zone de génie, bah, c'est la vie. La vie à tous les niveaux, la vie émotionnelle, la vie créative, la vie, c'est vivant, quoi. C'est vivant, ça apporte du bonheur, des inquiétudes, mais ça vit, ça bouge.
Merci beaucoup, Maïssa.
Avec grand plaisir, Emmanuel. Merci à toi.
Merci à mon invité d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous pour votre écoute. Retrouvez toutes les références de notre discussion en barre de description. Si vous aimez le podcast, partagez-le et parlez-en autour de vous, à votre famille, à vos amis et même à votre voisine un peu chelou. On peut aussi s'en parler par mail ou sur Instagram à La Zone Podcast. Prenez soin de vous et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.